bonjour et bienvenue dans votre chronique culture du département du mois de septembre. C'est notre rentrée à nous et c'est plutôt une bonne chose. Je suis accompagné de Florence et Marie. Bonjour Florence, bonjour Marie.
Bonjour Jessé.
Alors dans cette émission, on va démarrer sur les chapeaux de roue parce qu'on est tenu un timing très dense ce mois-ci. Et ça aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Nous parlerons durant cette émission patrimoine.
Oui, avec Raphaël Jarry qui est chef de projet Art Visuel Culture et Lien Social, qui va nous expliquer ce qui s'est passé dans l'heure pour les Journées du Patrimoine.
Nous parlerons également musique et social.
Oui, avec Stéphane Norbert qui est musicien, percussionniste et compositeur et qui va nous parler de tout son travail qu'il est en train de faire avec les enfants de l'aide sociale à l'enfance.
Vous retrouverez la fameuse chronique Le Saviez-vous que nous aimons très particulièrement ici, mais elle sera un petit peu décalée parce que nous commencerons cette émission en parlant de street art, Marie.
Oui, tout à fait, parce que donc le week-end dernier sur le territoire de Bernay ont eu lieu les Journées européennes du patrimoine portées par le département. Il y a toujours les œuvres visibles et notamment une exposition qui s'appelle L'art urbain, 40 ans d'aventure urbaine, qui est visible à l'abbatiale de Bernay. Et donc on reçoit Nicolas Laugereau-Lasserre qui est le commissaire de l'exposition, qui a eu la gentillesse de nous prêter une quarantaine d'œuvres de sa collection. Sa collection complète est visible depuis 2013 à l'école... L'école 42, pardon, à Paris. Il est directeur de l'ICAR, qui est l'école de management de la culture et du marché de l'art, président fondateur d'Artistique Réseau et cofondateur et directeur artistique du Centre d'art Fluctuart à Paris. Bonjour Nicolas.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci.
Bonjour, donc du coup, moi j'ai eu l'occasion de visiter l'expo à l'abbatiale de Bernay. J'étais très impressionnée par le nombre d'œuvres qui y avait présent. Et je voulais savoir comment s'est passée votre première rencontre avec le street art.
Oh ben moi, c'est une passion qui a démarré il y a très longtemps, il y a 25 ans. Et j'arrivais à Paris et puis j'ai découvert vraiment de l'art dans la rue. C'est ça qui m'a fasciné. C'est vraiment des fresques, des pochoirs, des artistes qui posaient leurs œuvres sur les murs, et c'est ça qui a fait naître ma passion. Et puis voilà, il s'est passé 25 ans et j'ai commencé à collectionner assez modestement au départ des sérigraphies, des dessins, jusqu'à avoir des œuvres originales, un peu plus grandes, un peu plus importantes. Et en fait, ce sont ces joyaux aujourd'hui qui sont au cœur de l'abbatiale. Donc je suis vraiment très heureux de cette exposition. Surtout un mot pour vous dire la splendeur de cet édifice, un des derniers édifices du XIe siècle qui est debout en Normandie. La splendeur de cette abbatiale, c'est vraiment incroyable. Ça a été pour moi vraiment un grand choc esthétique que depuis presque un an, de venir régulièrement dans ce lieu. Et donc, vous imaginez la pression de faire vivre les plus grands artistes de street art de la planète, comme Banksy, comme Shepard Ferré, comme Imbider, comme JR, de les faire vivre dans ce joyau. Voilà mon défi, ça a été ça. De marier les plus grandes œuvres, les plus grands artistes de street art dans ce joyau architectural et patrimonial qu'est cet abbatiale.
Quand on parle de street art, de quoi parlons-nous précisément? Parce que vous l'aviez évoqué, le pochoir, la peinture, des installations de couleurs, des choses gigantesques et en même temps des petits éléments. Je pense à Invader, par exemple, qui propose aussi beaucoup de petits formats. Comment est-ce qu'on définit, voilà, des mosaïques? C'est à travers toutes ces techniques, qu'est-ce qui définit un petit peu cette notion de street art?
Oui, bravo, c'est une très bonne question et un défi pour moi de répondre en 30 secondes pour vous dire que le street art, c'est de l'art dans la rue. Et donc, il y a de multiples techniques, vous les avez évoquées, des artistes qui travaillent avec de la peinture, par certains travaillent avec des pinceaux, d'autres vont travailler avec des bombes aérosols, qui est un peu l'instrument typique du street art dans la rue, du graffiti. Et d'autres vont utiliser la technique du pochoir, à partir d'une matrice découpée, et vont venir pocher leur support. Et comme Imbider, bravo, effectivement, lui, c'est des mosaïques. Il va acheter des petites mosaïques et il va composer ses personnages. Ou d'autres, comme le fameux JR, c'est du collage. JR prend des gens en photo et ensuite va coller la photo sur le mur. Donc, vous voyez, le street art, il se définit pas par une esthétique, parce qu'il y a 1000 esthétiques. Il se définit pas par une technique. Il y a des dizaines de techniques. Donc, qu'est-ce qui le définit? C'est l'art dans la rue. Un art gratuit, à la portée de tous, qui vient, je l'espère, embellir le paysage urbain et qui vient amener des couleurs, de la joie aussi dans certains quartiers, dans parfois des quartiers populaires. on a de la couleur, on a du bien vivre, on a de l'âme. Et souvent à côté, pour finir, militant, hein, vous le savez, ces artistes, ils ont un regard sur le monde, ils ont aussi des combats sur les questions d'écologie, sur la paix, et on en a bien besoin, vous voyez, de promouvoir la paix, etc. Voilà, donc il y a aussi cette dimension militante.
Est-ce que ce courant de street art est aussi repéré dans le temps? Est-ce qu'on a, j'ai envie de dire, des périodes un peu charnières de « il apparaît à ce moment-là » où finalement on l'a un petit peu tout le temps et c'est peut-être aujourd'hui où nous portons un autre regard dessus?
Alors non, là maintenant on a vraiment du recul, donc il y a des pionniers, quelques pionniers qu'on expose d'ailleurs. Je pense à Jacques Villéglé dont on voit des affiches lacérées. Je pense à Zmoti Kamien, donc avec lequel on démarre l'exposition.
On est dans quelle période sur ces artistes?
Les pionniers, c'est vraiment, on démarre années 50-60. Hein, là, c'est les pionniers des pionniers, puisqu'ils démarrent à un moment où le street art, dans son nom actuel, n'existe pas. C'est pour ça que ce sont d'ailleurs des pionniers. C'est des gens qui vont commencer à investir la rue, mais il n'y a pas l'idée d'un mouvement. Alors, l'idée du mouvement va naître dans les années 70 à New York, là, on est sur le graffiti writing, le lettrage. Ça, c'est l'année New York 70. Mais vraiment, le street art dont on est en train de parler, celui qu'on montre à la Bastiale, il va véritablement naître le mouvement début des années 80. Et là, on démarre avec des mystiques, avec ses pochoirs, des Jérôme Ménager avec ses petits bonhommes blancs, des Jeff Aerosol, là aussi, dans la technique du pochoir, des Speedy Graffito, dans toute cette explosion de ces couleurs... un peu pop art dans ces années 80. Voilà, donc c'est ça l'expo. On raconte l'histoire, on raconte 40 ans d'histoire des pionniers, puis jusqu'aux stars, j'ai les stars, c'est-à-dire à des gens très connus dans le monde entier. Mais figurez-vous qu'on a un Banksy original. Donc voilà, je rappelle que l'expo est gratuite parce que c'est ça la fierté aussi qu'on a du département, de la ville de Bernay, de moi-même, la fierté d'accueillir des milliers, des dizaines de milliers de personnes tout le mois gratuitement. Ils vont pouvoir découvrir un Banksy original. Ils vont pouvoir découvrir une magnifique installation de Madame, parce que il y a une artiste, figurez-vous, qu'on a invitée in situ dans la Bastiale, qui a fait une grande installation, qui est d'ailleurs une installation en mouvement, j'en dis pas plus, qui vit cette installation. Donc voilà, c'est toutes ces œuvres que les gens vont pouvoir découvrir, vraiment de mieux comprendre ce mouvement et mieux comprendre ce qu'est le street art, donc ses techniques et toutes ses formes.
Vous avez été présent lors des Journées du Patrimoine sur le samedi et le dimanche, il me semble, pour accueillir le public. Comment ils ont réagi face à toutes ces œuvres?
Bah écoutez, j'ai senti beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de curiosité. Et ce qu'il y a de fascinant toujours, c'est qu'il y a une partie des gens qui viennent pour le patrimoine et qui, eux, ont eu la surprise de voir en écho à cette sublime abbatiale les œuvres. Et puis d'autres qui sont venus pour le street art et qui n'étaient peut-être pas venus dans l'abbatiale depuis 5 ans, 10 ans, et qui ont redécouvert la splendeur de l'abbatiale. C'est ça que j'ai trouvé formidable dans la commande, et j'en remercie encore beaucoup le département. C'est vraiment cette union, cette harmonie entre le patrimoine et aussi la création contemporaine. Hein. Et puis je rappelle que ça a été fait aussi avec 5 artistes qui ont investi le territoire in situ, entre autres à l'hôpital de Bernay ou à la bibliothèque de Bernay. Donc voilà, 5 artistes qui ont été sur tout le territoire et qui ont eu aussi fait ce mariage qu'on peut aussi voir gratuitement encore quelques jours.
Et est-ce que vous avez pu, dans le cadre de l'exposition, rencontrer ou échanger avec des artistes locaux?
Oui, beaucoup. On en a embarqué 2. Donc il y a Z199, c'est un artiste de Bernay. Ça fait 25 ans qu'il œuvre sur le territoire. Et c'est lui qui a réalisé une installation incroyable juste sur l'esplanade, hein, devant la Bastiale, devant la mairie. En fait, j'en dis un petit peu, mais pas trop pour que les gens viennent voir. Mais voilà, on va y découvrir une installation assez monumentale puisque ce sont des véhicules en réalité qui ont été peints et qui se rencontrent, qui s'entrechoquent. Une jolie histoire, jolie métaphore que l'artiste nous a racontée. Et puis un deuxième artiste très touchant aussi, c'est Erwan Autré. Erwan, il intervient dans des IME, dans des instituts médico-éducatifs auprès de jeunes autistes, il intervient dans des hôpitaux psychiatriques. C'est un art-thérapeute, donc c'est un artiste qui crée des œuvres et qui est aussi un art-thérapeute. Et là, 2 installations à l'intérieur de la Bastiale. Il y a une œuvre qui a été réalisée avec les patients de l'hôpital de Saint-Étienne-du-Rouvray. Vous allez voir, elle est géniale. Et puis, une bombe aérosol qu'il a reconstituée en géant, ça c'est une œuvre à lui. Donc voilà, on a été très très heureux d'embarquer les artistes du territoire. C'est important parce qu'ils étaient là avant nous, ils seront là après. C'est eux qui œuvrent sur place et je crois qu'on les a bien mis en valeur.
Je voulais savoir, du coup, les autres artistes, si vous les connaissiez avant ce travail pour les Journées du patrimoine et si vous êtes allé voir leurs œuvres.
Oui, on a eu la chance de faire le tour. On a pu faire venir pas mal de personnalités. On a fait venir des jeunes influenceurs sur Instagram, sur TikTok, qui sont venus pour faire le tour. Et on a pu embarquer, et je leur rends hommage à travers vous, par exemple, le critique d'art de Télérama, spécialiste de street art. On a fait venir la journaliste également, Emmanuelle, qui est la journaliste de Graffiti Art Magazine. Voilà, on a fait venir plein de personnalités. Et le samedi matin, samedi dernier, on a amené tous ces gens influenceurs, journalistes, justement, au cœur du territoire, au cœur du patrimoine. Et bien sûr, on a été à la rencontre donc des Monkey Birds, on a été à la rencontre d'Astro, on a été à la rencontre d'Ardif, de Madame et de Eva Zessir. Alors oui, dans ces artistes, il y en a plusieurs que je connaissais, d'autres que j'ai découvert. Donc c'est toujours très riche, hein, la dimension festival, c'est toujours formidable.
Sur l'aspect justement de l'exposition, vous évoquiez il y a quelques instants ce monument, la Bastiale du XIe siècle, en tout cas sur une fondation du XIe siècle. Finalement, quand on parle patrimoine et aussi ancien que ça, la Bastiale du XIe siècle, et street art qui est dans quand même l'appropriation de l'espace. Finalement, le street art, c'est ça aussi, c'est s'approprier l'espace quand on est artiste. J'imagine, et vous l'évoquiez à demi-mot tout à l'heure, qu'il y a de la résonance, de peut-être un échange, une discussion quasi entre les œuvres et ce monument qui pourrait être impressionnant s'il était à nu.
Vous pouvez pas imaginer à quel point ça a été fort pour moi, la rencontre. Quand je parle de la Bastiale, je dis parfois que j'ai été amoureux, on peut imaginer une personne, etc. C'est un rapport vraiment incroyable d'imaginer que des hommes, des femmes, il y a 1000 ans de ça, on construit ce monument, ce bâtiment, et que ce bâtiment, c'est un miracle. Il a survécu à tout, à des grands incendies, il a survécu à une démolition au moment de la Révolution française, il aurait dû être détruit, les pierres auraient dû être récupérées, et donc ce sont des miracles. Par miracle, vous voyez, les pierres n'étaient pas d'assez bonne tenue pour être revendues, et par ce miracle-là, le bâtiment est resté en place. Enfin, voilà. C'est fou, traverser 1000 ans, ça paraît dingue dans l'histoire de l'humanité. Donc vous imaginez, moi j'avais beaucoup de pression, oui, vous avez dit le mot, j'avais beaucoup de pression, parce qu'il n'était pas question de souiller, d'abîmer la perception du bâtiment, il fallait au contraire le magnifier, et il fallait pas être écrasé non plus, il fallait quand même créer de l'harmonie et exister. Et donc, en particulier, on a pu mettre en place des grands drapés de 6 à 8 mètres de haut, au niveau des arcades qui vont venir créer une harmonie. Vous voyez, on a été à la hauteur, on a essayé d'être allé à la hauteur sans jamais non plus lutter et ni être écrasé. Voilà, ce subtil équilibre qu'on a essayé de construire.
Pour avoir visité l'exposition, j'ai eu même cette sensation d'une appropriation à travers le street art d'un endroit qui me paraissait tout aussi impressionnant, mais moins intimidant. Je sais pas si je suis clair quand je dis ça, il était tout aussi impressionnant, mais moins intimidant, parce que marquait finalement...
Oui, c'est ça, à trouver sa place, quoi.
Tout à fait.
Oui, merci. Ben, donc je le prends comme un compliment, et je crois qu'on a réussi à c'est un amour partagé avec la Bastiale. Voilà, je crois qu'on a réussi à créer la relation. Et ces œuvres, effectivement, elles sont à la fois mises en valeur et je vous dis, l'équilibre s'est trouvé. Et mais merci, parce que effectivement, l'installation de Madame aussi participe à ça. Il y avait une dimension ludique qui a rendu le bâtiment peut-être moins impressionnant, moins solennel, sans le déflorer, sans lui manquer de respect. Je crois qu'on a réussi cet aspect-là, mais vraiment, j'appelle tous les gens qui nous écoutent à aller voir, encore une fois, c'est gratuit. Je rappelle les horaires, c'est du mercredi au dimanche, hein, de 10h à 13h, de 14h à 18h, c'est entièrement gratuit. On peut amener les enfants, on peut amener vraiment les familles, parce que c'est très accessible, ces œuvres de street art, elles sont très colorées, et c'est l'occasion de leur montrer ce joyau, et en même temps de découvrir ce mouvement de street art qui est tellement passionnant, tellement accessible à tout le monde.
Et nous passons notre temps à bien le répéter à l'antenne pour inciter bien entendu tous les auditeurs à y aller. Une fois qu'on l'a vécu, on engraine les autres pour y aller aussi.
Exactement.
Moi j'avais une dernière question, je voulais savoir, Bernet, c'était la première fois que vous y alliez ou si vous connaissiez avant, et qu'est-ce que ça vous a donné comme impression quand vous êtes arrivé dans la ville?
Ouais, alors je connais bien l'heure parce que j'y ai une maison vers Lyon-Saint-Forêt, donc c'est pas le même coin. Je connaissais pas Bernay ou pas bien. Ce qui m'a marqué à Bernay, c'est d'abord l'architecture. Je crois que c'est une ville qui a aussi survécu à la Deuxième Guerre mondiale au bombardement. Donc elle a cette dimension historique, ce centre historique, piéton en partie. Et surtout, ces maisons à colombages, une ville à taille humaine, ça m'a beaucoup touché. Enfin, parce que moi, j'ai cet attachement voilà, pour cette architecture, ce colombage qu'on voit dans la ville. Donc moi, je trouve que la ville est très belle. Elle a aussi la chance d'avoir un centre-ville très animé. C'est pas le cas partout dans le département ou en Normandie. Je pense à des villes, je vais pas les citer, mais voilà, qui sont plus désertifiées. Là, je vois un centre-ville animé, plein de commerçants, plein de vie. Donc voilà, très séduit par la ville, par l'énergie de la ville. Très bel accueil du département, évidemment, puisqu'on a construit ensemble, mais aussi de l'équipe municipale de Bernay. Ça, j'ai apprécié, vous voyez, qu'il y ait cette belle entente entre le département, la ville, l'agglomération. Ça se sent. Et ça marche. Le résultat, c'est que ça marche, qu'on a pu faire un projet ambitieux, qu'on a pu embarquer tout le monde, vraiment communiquer beaucoup, embarquer des scolaires. J'étais tellement heureux de faire visiter à tous les enfants des collèges de Bernay. C'était vraiment très, très chouette, ces rencontres avec ces gamins très intéressés par ce qu'on était en train de faire.
Eh bien, merci beaucoup. Je rappelle qu'on était avec Nicolas Laugereau-Lasserre, qui était le commissaire de l'exposition L'Art Urbain, qui est en ce moment à l'abbatiale de Bernay. Merci beaucoup, Nicolas.
Un grand merci. Merci à tous. Bonne journée. Merci.
Bonne journée. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Nous partons en pause musicale avec une sélection réalisée par la bibliothèque départementale, enfin la médiathèque départementale, si je dis pas de bêtises.
Tout à fait. Et donc, on part avec Joy Oladokun, avec un album qui s'appelle Proof of Life et un morceau qui s'appelle We're All Gonna Die.
These days, something's always turning into nothing will change. I'm just trying to find a way up when I'm down. It all makes sense to me now. We're all gonna die trying to figure it out. We're all getting high anyway we know how. We're over our heads, so I'll say it out loud. We're all gonna die trying to figure it out. We're all gonna die. I write
Joy Oladokun, c'était un choix des médiathèques départementales, c'est ça, hein?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, il est disponible sur les ressources numériques de la médiathèque départementale Musicmi. Muskimi. Oui, Muskimi.
D'accord. Et bon, voilà. On ira chercher ça alors.
Voilà. Et là, c'est le quatrième album de cette artiste américaine, avec des airs pop folk au contour country.
Très bien, bah merci Marie. On l'avait pas mis au début de cette émission parce qu'on était pris par le temps, mais nous avons notre rubrique Le saviez-vous, que nous avons hâte de retrouver, Florence.
Le saviez-vous que Wax Taylor habitait à Vernon ? Alors, Wax Taylor, c'est un musicien électro très célèbre qui va dans le monde entier pour sa musique. Et en fait, il vit et travaille toujours à Vernon. Il a besoin de ce cadre-là, en tout cas, pour émerger des créations sonores. Voilà.
Eh bien, merci. Wax Taylor, je ne sais pas si tout le monde voit un petit peu ce que c'est. Si, ben voilà. Ben en fait, c'est ça. J'en envoie un tout petit extrait. C'était l'extrait live avec le symphonique de Lille de mémoire. Et c'était un excellent album. Phonovision Symphonie s'appelle Phonovision Symphonique, l'album. On vous invite vraiment à le découvrir. On en met un tout petit extrait parce que c'est Wax Taylor quand même. Hein. Faut pas exagérer.
Oui.
Your mind be at peace, 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 peace.
On aurait envie d'en écouter plus, on aurait envie d'écouter l'album complet, le live qui a été l'objet d'une captation, donc vous pouvez le retrouver très très facilement sur les plateformes de diffusion, en album, enfin en tout cas vous pouvez le retrouver à peu près où vous voulez. Wax Taylor, ce Vernonnais dont on est fier, bien entendu. Merci Florence pour le saviez-vous. C'était un chouette, le saviez-vous, celui-là. Moi, il me plaît bien, celui-là. On repart comment? Je sais même plus parce qu'on a tout.
On repart en journée du patrimoine.
On repart en journée du patrimoine, tout à fait.
Raphaël.
On avait dit, effectivement, qu'on allait parler patrimoine. Tout à fait.
Donc, Raphaël, tu t'es occupé de, avec Aurélie Ropper, de l'accueil des artistes, du choix des lieux, etc. Tu voulais nous apporter une petite précision sur l'abbatiale?
Oui, tout à fait. Pour l'exposition, du coup, L'art dans la rue, que vous pouvez retrouver à l'abbatiale de Bernay, c'est donc du mercredi au dimanche, les après-midi de 14h à 18h. Voilà, pas d'ouverture le matin, attention par rapport à ce qui a été dit, mais en tout cas les après-midi de 14 à 18h. Et on vous invite à la découvrir. Ouais, effectivement, du coup, les Journées européennes du patrimoine du département, c'est un projet qui existe, c'est la 6e édition. Et l'objectif, c'est de porter un nouveau regard sur notre patrimoine et notamment d'inviter des artistes à porter ce nouveau regard à travers des créations in situ, donc c'est-à-dire vraiment au cœur des sites, dans les lieux. Cette année, l'objet, c'était de travailler sur l'art urbain. C'est pour ça que, du coup, et là, je salue vraiment l'extraordinaire travail de ma collègue Aurélie Ropper, chef de projet sur ce cégep, parce qu'effectivement, l'objectif, ça a été de rencontrer Nicolas, enfin, elle a eu l'occasion de rencontrer Nicolas Loge-Rolasserre. Il y a eu vraiment tout un travail qui a été fait autour de cette exposition. Et en parallèle, donc, il y a eu une programmation par le département d'artistes invités à venir créer, donc, dans 5 lieux. Le cœur de Cégep, c'est donc Bernay, donc avec l'abbatiale, l'exposition et au cœur une immense installation de l'artiste Madame. L'artiste Madame, elle est à découvrir parce que c'est vrai que les femmes dans l'art urbain, elles ont un peu plus de visibilité depuis ces dernières années et c'est vraiment à souligner et on adore son travail. On pouvait la retrouver partout en France et même partout dans le monde. Donc Madame à l'abbatiale, on a eu l'artiste Astro qui est très renommé aussi, qui travaille lui sur des illusions d'optique au niveau donc du conservatoire sur les deux façades. Hein. Il proposait un diptyque très très coloré et géométrique. On a retrouvé aussi, on a invité les artistes des Monkey Birds à venir eux créer une grande installation sur la façade de l'hôpital de Bernay que vous pouvez découvrir déjà depuis la route. Alors eux, c'est des artistes qui travaille le pochoir, qui travaille vraiment le dessin de façon très minutieuse. Et pour l'hôpital de Bernay, là, c'est du collage. Ils ont vraiment collé des mètres et des mètres en hauteur. Je ne sais pas à combien on est, peut-être à plus d'une dizaine, vingtaine de mètres encore en hauteur. C'est impressionnant. C'est une œuvre qui a beaucoup plu au public et qui a permis, là aussi, du coup, de redécouvrir l'hôpital, parce que c'est des gens... on a même eu des témoignages, en fait, tout au long du week-end, où il y a des gens qui nous expliquaient que... Bah, voilà, une dame qui avait accouché dans cet hôpital, donc il y a de nombreuses années, et puis qui le revoyait, elle pensait que, voilà, je ne regardais plus cet hôpital, et grâce à cette œuvre, merci de redonner la lumière dessus. Et puis après, on est parti sur Broglie, toujours avec l'artiste Madame à la bibliothèque, le duo d'artistes Eva Zézir au Moulin de Pré, qui là est un privé, qui propose aussi du coup un musée, un écomusée, c'est un grand collectionneur qui collectionne plein de choses et qui fait aussi découvrir son écomusée. Et puis l'idée, c'est de terminer après sur Mélie en Ouche, avec sur le château du Bambuisson, deux installations de l'artiste Ardif, qui lui mélange animaux et mécanique.
C'est justement ça l'enjeu, là. J'entendais, vous disiez à l'instant, qu'une personne disait « je ne le voyais plus, cet hôpital dans lequel j'avais accouché, mais je ne le voyais plus, il faisait partie du décor ». C'est l'occasion, à travers ces journées du patrimoine et l'association avec des artistes contemporains, de redécouvrir justement ce patrimoine. Des fois, on ne le voit plus.
Exactement. Et justement, tout à l'heure, Nicolas Logerolasserre, donc le commissaire de l'exposition à l'abbatiale, nous expliquait qu'il y avait des gens même qui revenaient dans l'abbatiale, qui n'étaient pas venus depuis des années. Et c'est vraiment ça l'objectif du département. Non seulement d'avoir l'opportunité d'ouvrir des lieux qui sont pas ouverts habituellement. Là, on pense notamment cette année au Conservatoire de musique qui a accueilli beaucoup de personnes qui avaient jamais eu l'occasion de revoir le bâtiment. C'est des anciens abattoirs, pardon. Donc, c'était aussi une nouvelle découverte pour beaucoup de gens. Et puis, oui, que le public redécouvre sous un nouvel œil son propre patrimoine et grâce aussi au regard de l'artiste, en fait. Donc, c'est une double découverte.
C'est aussi parfois redonner l'histoire. Je pense au moulin de Pré, sur lequel il y avait une fabrique de confiture. On le sait pas. Quand on passe devant, on n'en sait rien du tout. Que c'était une fabrique de confiture, on n'en sait rien du tout. Et finalement, à travers l'œuvre, c'est l'histoire qui vient recoller sur le bâtiment.
Tout à fait, parce que Eva Zézir, donc ce duo d'artistes, a représenté donc une femme qui fait de la confiture. Je ne l'appelle pas parce qu'on appelle ça une confiturière.
Oui.
C'est pas facile à dire. On le dit pas tous les jours. Et une dame aussi, voilà, une personne qui faisait du lait. Et ils ont eu des représentations très figuratives. Ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, quand on invite des artistes, on leur laisse carte blanche. On leur donne quand même comme indication, inspirez-vous du lieu à partir aussi de votre propre pratique. Voyez ce que ça peut donner. Donc, il y en a qui s'en inspirent vraiment textuellement, de façon très concrète, comme Eva Zézir qui va représenter un moment de l'histoire avec ses figures féminines qui font de la confiture ou du lait. Elles sont extraordinaires. Il faut les découvrir. Elles sont magnifiques. En plus, c'est sur des briques rouges vraiment typiques de la région de Bernay. Et d'autres, voilà, qui vont avoir un rapport peut-être un peu plus conceptuel, ou en tout cas des formes, voilà, qui vont aussi vraiment partir de, par exemple, Madame, qui parle la bibliothèque de Broglie est une ancienne gare et elle a utilisé le mot train-train et beaucoup de jeux de mots dans les phrases qu'elle met sur ses œuvres. En général, il y a toujours un peu de poésie avec Madame parce que c'est une artiste qui vient du théâtre et voilà, et elle aime toujours apporter du texte avec de l'image.
Donc, les œuvres in situ sont visibles jusqu'à quand?
Alors, elles sont toutes visibles jusqu'au 3 novembre. Donc, c'est vraiment deux dates entre l'exposition.
En fonction des pluies?
En fonction. Alors, effectivement, globalement, non, elles vont effectivement toutes tenir, mais c'est vrai que les œuvres à Broglie, effectivement, en tout cas Broglie, peut-être aussi l'hôpital, c'est des œuvres qui peuvent, avec les intempéries, c'est du street art, c'est sur du mur, donc forcément ça vit aussi avec le temps, la météo, et c'est tout ce qui fait aussi la beauté du street art. Quand vous avez un mur, ben un artiste va aller peindre dessus, mais un autre artiste peut repasser par-dessus, etc. Bon, là c'est pas ce qu'on demande, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire, c'est vraiment aussi à l'essence, c'est vraiment cette dimension éphémère. C'est pour ça que là les œuvres sont éphémères. Jusqu'au 3 novembre, vous pouvez les découvrir. Attention, ce n'est pas la même date que l'exposition à l'abbatiale qui, elle, se termine le 20 octobre.
Sur toutes ces œuvres, justement, on parlait de patrimoine, on parlait d'œuvres sur le patrimoine. C'est pas, on l'a à peine effleuré là du bout de la thématique là sur les collages, mais en fait, tous les monuments ont été protégés avant d'être artistiqués.
Tout à fait.
Non mais c'est important cette notion de patrimoine, parce que quand on va vers le patrimoine pour de l'œuvre sur façade, eh bien, il y a tout un tas de précautions, j'imagine.
Tout à fait. Alors là, il y a un vrai travail qui est fait avec les architectes des bâtiments de France, c'est-à-dire qu'on ne va pas sur n'importe quel bâtiment et on ne fait pas n'importe quoi. Donc ça, c'est tout un travail qui est fait en amont. Pour vous donner une idée, en fait, le projet, il a lieu en septembre et le travail démarre vraiment à chaque fois un an avant, voire parfois un peu plus. Là, ça a été un vrai défi technique. Comment on met du street art sur du bâtiment? Alors, on a travaillé pour une partie des œuvres avec une entreprise qui a un support qui s'appelle
le Plastigraphe.
Plastigraphe, merci. Donc c'est
Plastigraphe. Bien que dans le nom, on sent que c'est fait pour.
Oui, ouais. Exactement. Mais c'est voilà, ils sont basés à Saint-Germain-en-Laye, travaillent avec beaucoup d'artistes de street art. Ils ont l'habitude de ce type de projet. Et en fait, là, ils installent en fait une sorte de film plastique adhérent sur le mur et qui permet à l'artiste de créer en fait de façon tout à fait simple et adéquate. Et puis après, il y a aussi des œuvres là pour au niveau de l'hôpital et aussi au niveau de la bibliothèque de Broglie, sont vraiment des collages avec des colles naturelles, bon du coup qui dureront moins longtemps, ce qui c'est pas grave parce que c'est éphémère, mais il y a eu aussi ce choix d'aller directement sur le mur parce que le bâtiment le permettait. C'est aussi une question de dimension friable en fait, est-ce qu'il est friable, etc. Et puis des retours qu'on a de toute façon des architectes des bâtiments de France, parce que c'est pas nous qui prenons la décision.
Et du coup, comment les artistes ont réagi avec le Plastigraphe? Est-ce que ça a été facile pour eux ou ils connaissaient déjà?
Alors, ils connaissaient déjà. Après, c'était oui. Alors ça change parce qu'il y a une dimension plastique. C'est pas du mur. La question de voilà de l'adhérence, elle est pas identique. Mais en tout cas, non, ça s'est très bien passé. Et puis ça, voilà, le Plastigraphe, vous le retrouvez au Moulin de Pré et vous le retrouvez aussi au Conservatoire de Bernay.
Il y a cette notion de temporalité dans le street art, hein. Vous le disiez à l'instant, il y a cette question, ça va durer jusqu'au 3 novembre, puis voilà. Il y a ce côté éphémère aussi dans le street art, ça veut dire qu'on ne sait pas si ça va être repassé le lendemain, si ça va durer sur des années. On a quelques œuvres même proches de chez nous là sur Évreux qui ont duré des années, hein, parce que pas repassé, parce que dans un endroit peut-être pas accessible des fois, mais en tout cas il y a tout un tas d'œuvres, on ne sait pas combien de temps elles vont durer, si c'est une journée ou 10 ans. Ça aussi, ça fait partie du street art, en fait, de cette notion de temporalité aléatoire.
Ouais, tout à fait. Il y a des villes en France, hein, que je pense notamment à la ville de Marseille, qui est très représentative de ça. Vous avez des quartiers comme au cours Julien, où vous retrouvez effectivement des fresques, des graffitis, et de façon... Alors, c'est pas du tout coordonné, hein, tout le monde vient, repasse par-dessus, c'est aussi une histoire de blase, c'est une histoire de territoire. Enfin, c'est vraiment passionnant à découvrir ces quartiers... ces quartiers ou même les bâtiments qui sont investis par les artistes de street art, oui, tout à fait.
Du coup, les artistes, ils ont réagi comment? Ils se sont tout de suite appropriés les lieux que vous leur aviez proposés?
Alors, la rencontre avec les artistes, ça démarre très simplement. Tout simplement, on les contacte, on leur propose. En général, ils disent vraiment tous oui, ils sont partants. On nous a posé la question parce qu'il y a des artistes comme Astro ou Ardif qui sont voilà, très demandés, très reconnus. Et comment vous avez fait? On les a appelés. Ils ont dit oui. Et parce qu'effectivement, là, on leur proposait de venir sur des bâtiments, qui mettent des étoiles dans les yeux, des projets, un projet quand même atypique avec le patrimoine. Et effectivement, ils ont adoré. Et puis il y a un vrai rapport aussi avec les publics. C'est des lieux où il y a du passage, où il y a du jeune. Je pense au conservatoire de l'Interco de Bernay. Donc oui, ils ont tous l'abbatiale, madame, quand on lui a dit voilà le lieu qu'on te propose pour une installation, tu as carte blanche, mais c'était incroyable, elle avait des étoiles dans les yeux et elle a fait une œuvre dont on est extrêmement heureux et fier même.
Et ils connaissaient un petit peu Bernay ou pas du tout?
Alors non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Et alors, faut savoir qu'ils sont aussi sur des temps de création à Bernay. Donc avant les Journées européennes du patrimoine, le lancement du projet, c'est une découverte aussi du territoire. C'est-à-dire qu'en fait, on accueille quand même pendant plusieurs semaines plusieurs artistes qui sont ici hébergés localement, qui rencontrent aussi les gens de Bernay. Là, il y a eu quand même un vrai lien qui a été créé avec les artistes parce que l'idée c'était aussi de Nicolas Laugereau-Lazer. C'était aussi avec qui on a collaboré sur l'expo. C'était aussi d'inviter des artistes locaux. Et ça, ça a été extraordinaire. Zion 99, il fait un... Voilà, ça a été aussi un excellent relais. On a adoré travailler avec lui, on aime beaucoup son travail. Et même pour nous, département, ça nous fait découvrir des artistes talentueux. Et puis ça nous fait les accompagner aussi dans leur développement.
Les artistes étaient présents tout le long du week-end ?
Oui, alors pour la majorité, le dimanche c'est toujours un peu compliqué parce qu'ils doivent repartir à Paris ou dans d'autres lieux. En fait, tout de suite, ils enchaînent directement sur d'autres projets, quelque part en France ou ailleurs dans le monde. Astro, par exemple, revenait de Washington. Ils étaient présents le vendredi soir, le samedi et pour une partie le dimanche.
Ouais, y a une vraie plus-value, on l'a vu, hein, donc avons pu participer un peu aussi à l'organisation. C'est vrai que les gens sont très en demande de l'explication artistique. Nous, on peut leur fournir une explication un peu technique, mais vraiment le cœur de l'artistique sans les artistes est compliqué.
Ouais, et puis on a vraiment vu qu'il y avait des gens qui étaient, enfin il y avait des gens qui découvraient le street art et des gens qui venaient pour le street art, qui étaient fans, qui voulaient à tout prix rencontrer Madame Hardiff, Monkey Burn, qui venaient pour faire des autographes. Enfin vraiment, il y avait des gens qui venaient même de très loin, donc c'était à la fois pour les gens du territoire, les Bernéens, les Eurois et pour tous les publics passionnés de street art en général.
Et vous pouvez faire toujours partie de ce public en y allant jusqu'au 3 novembre pour les œuvres sur les bâtiments. On vous l'a dit, autour de Bernay, c'est la Bastiale, c'est le centre hospitalier, le conservatoire de musique, la bibliothèque de Broglie, le moulin de Près, le château du Blanc Buisson. Ce sont les lieux où sont ces magnifiques fresques géantes. Et puis toujours l'expo à la Bastiale autour du street art. Et ça, c'est jusqu'au
Dimanche 20 octobre.
Jusqu'au 20 octobre, voilà. Et ça, on vous conseille plus que chaleureusement d'y aller, bien entendu.
Extraordinaire.
On retourne du côté des médiathèques départementales, du fond des médiathèques départementales, avec une autre pause musicale, Marie.
Oui, alors ce morceau n'est pas disponible sur les ressources numériques de la MDE.
D'accord.
C'est le seul qu'on propose, voilà.
Voilà.
Et c'est un duo américain qui s'appelle The Lemon Twigs. Là, on est sur leur 6e album qui s'appelle I Dream Is All We Know. Et le morceau, c'est How Can I Love Her More? I would never say a bad thing about her. Lemon Twigs avec un morceau How Can I Love Or More. On aura reconnu les influences des Beatles, des Beach Boys et de Simon & Garfunkel.
Et ouais. Ce morceau-là, nous le retrouverons pas dans le fond des médiathèques départementales. Bon, on vous en fera d'autres avec Trouvable dans le fond.
Oui, tout à fait.
Donc maintenant, nous sommes avec Stéphane Norbert, qui est donc musicien, percussionniste et compositeur, qui travaille en ce moment avec des enfants de l'aide sociale à l'enfance sur un projet. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce projet sur lequel vous êtes en train de travailler ?
Alors, eh bien, on est en train de préparer donc avec ces enfants qui sont, je dis des enfants, ce sont plutôt des adolescents. On est en train de préparer un ciné-concert, une forme de ciné-concert. Donc, les enfants vont jouer sur des instruments à percussion, essentiellement, vont jouer sur de vrais instruments à percussion que je leur mets à disposition. Mais il y a aussi une partie percussion corporelle, objet détourné, un petit peu aussi, il y aura ça. Et puis le sujet, il est magnifique, c'est qu'on va travailler sur la filature Le Vavasseur qu'on a visité. Donc cette filature, c'est une belle ruine, c'est très fantomatique, c'est un lieu très fantomatique, je trouve, qui se trouve dans la vallée de l'Andelle, qui est magnifique, que je connais depuis plusieurs années, et on a eu la chance d'aller la visiter, cette filature. On vous a expliqué plein de choses très intéressantes sur l'histoire, et on a décidé de s'inspirer des images de cette filature pour mettre tout ça en musique. C'est une belle aventure qu'on a démarré au mois de juin et la restitution de tout ce travail aura lieu le 12 octobre.
Donc c'est des adolescents, on va dire, qui n'ont jamais fait de musique. Comment ça se passe pour leur apprendre un peu à jouer des instruments?
Alors effectivement, les adolescents en question. Alors il y a un petit peu d'éducation musicale, je crois, dans l'établissement dans lequel ils sont hébergés, parce que voilà, les encadrants sont parfois musiciens. Je sais qu'il y en a deux au moins qui sont musiciens, qui sont vraiment vraiment fans de ça, qui pratiquent la musique, et donc il y a un petit encadrement quand même là-dessus, mais ils ne sont pas percussionnistes. On démarre de zéro, et c'est bien parce que c'est ça qui fait que c'est une belle aventure, une aventure humaine au départ. Moi, j'appelle ça une rencontre artistique, c'est-à-dire que je me retrouve en face de personnes qui n'ont jamais pratiqué, qui ne savent même pas ce que ça va donner en fait à la fin. On n'a pas de partition, évidemment, tout est créé, c'est un travail de bouche à oreille, évidemment, mais on a je donne des éléments en fait assez rapidement, faciles à mettre en œuvre pour qu'on puisse créer des sons, pour qu'on puisse tout organiser de manière simple, de manière audible aussi. C'est important parce que ça donne beaucoup de repères, et puis très vite l'aventure prend une tournure assez géniale, parce que les sons, ça s'organise très vite avec des percussions, et on arrive à un résultat assez facilement.
Je voulais savoir, il y a combien d'ateliers qui ont été faits
Alors je sais plus exactement, je les ai pas comptés, j'avoue. Il y en a quelques-uns déjà. On arrive là à la fin de l'aventure. Il reste quatre séances d'ateliers. Alors là, on est plutôt dans un, c'est plus de l'atelier en fait, c'est des répétitions maintenant. C'est-à-dire que quand j'ai démarré l'aventure avec eux, je leur ai dit, et c'est ce que je dis partout où je mène ce genre d'aventure, je dis voilà, en fait on prépare un concert. Moi, je suis un artiste à part entière. Vous êtes mes invités, donc on a le comportement qui quasiment professionnel, je veux dire. On peut bien sûr plaisanter, parler de choses, poser des questions et autres, mais il y a un moment où il y a cette restitution. C'est important, c'est vraiment le point d'orgue de notre opération. Et ça, c'est ce moment-là, on doit le préparer vraiment en répétant comme le font tous les musiciens et les musiciennes. Professionnels et même amateurs d'ailleurs, sûr que voilà, il y a pas de secret, la musique c'est quelque chose qui se prépare, ça vient pas comme ça, et donc là on est dans ce processus là, c'est-à-dire qu'on a fait le tour vraiment des problèmes techniques, on a les enfants sont venus aussi avec des envies, parce que voilà, je suis pas le maître absolu à bord, et ça n'est pas une dictature. C'est-à-dire qu'on est vraiment, chaque enfant a son paysage musical. Il y a des choses, j'ai entendu des choses, il y a eu des tentatives. Je sais que les enfants sont allés, certains d'entre eux sont allés en studio enregistrer leurs propres créations. Voilà, on a écouté tout ça, on a essayé de rejouer ça sur des instruments, sur un marimbaphone par exemple que je leur ai mis à disposition, qui est un bel instrument sur lequel on a de très jolis sons, de très jolies notes, et on peut rejouer des chansons, on peut rejouer des choses. Ça, on l'a travaillé. On peut partir de ça. C'est des petits éléments tout le temps, des petites choses qui s'imbriquent. C'est des petites briques en fait. C'est une petite construction comme la filature l'a été, quoi. Enfin, la filature, c'est énorme, mais voilà, on a de tout petites choses qui s'empilent et qui s'imbriquent pour que ça donne un vrai ciné-concert.
Quand on parle d'enfants, d'adolescents même, sous couvert de protection de l'enfance, hein, c'est un public particulier qui peut-être réagit différemment à la musique. Comment ça se passe ce lien quand on a des problématiques qui seraient éducatives, sociales, et puis qu'on aborde la question de la musique, est-ce qu'elle est abordée pareil? Est-ce que c'est pas finalement un beau moyen d'expression?
Oui, c'est un beau moyen d'expression. Oui, absolument. Alors, par rapport à un public que je dirais normal, j'aime pas trop ça.
Ordinaire.
Oui, ordinaire, mais j'aime pas trop j'aime pas trop comparer ça et mettre évaluer ça, en fait. J'ai presque envie de dire que c'est la même chose. C'est-à-dire que on a des choses à exprimer. Toutes et tous, on a tous des douleurs, des choses qui nous dérangent. Maintenant il y a un curseur, c'est-à-dire qu'il est plus ou moins haut, plus ou moins bas. J'utilise en fait pour que l'échange se fasse vraiment et que l'intérêt y soit pour les enfants. Mon curseur, je le bouge aussi, le mien, mon propre curseur, voilà. Et suivant avec qui je travaille. Donc il y a forcément un dialogue qui se met en place. Et puis moi je suis récompensé beaucoup en ce moment quand je fais cette aventure à chaque répétition, c'est que je vois le sourire des enfants. Et ça, c'est ça vaut tous les salaires. Je sais qu'à l'instant T où l'enfant joue, ça se passe bien pour lui à ce moment-là. Et c'est déjà ça de prix, en fait. Voilà. On parle pas de leurs problèmes. On n'est pas là du tout pour ça. Je ne sais même pas quels sont les problèmes qui concernent ces enfants-là. Et j'avoue que c'est difficile aussi pour moi de rentrer là-dedans. C'est un autre métier.
Mais c'est peut-être justement tout l'intérêt de les prendre là où ils en sont et pas trimballer un passé ou des problématiques ou des doutes.
Moi, dès qu'on passe la porte de la grange à Alizé, c'est l'endroit dans lequel on va en plus donner ce ciné-concert. On passe la porte, on laisse les soucis dehors. Ça, c'est moi, je le vis dans mon travail de musicien au quotidien. Je dis toujours ça, même à des gens que je forme ou d'autres artistes que je croise. Voilà, on est totalement imprégné par notre travail. Moi, je dis toujours en plaisantant, je dis moi quand j'arrive sur scène, j'ai oublié de fermer le gaz chez moi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est obligé, de mettre le tracas quotidien de côté. Je pense que pour ces enfants-là, c'est décuplé évidemment. Il y a des choses, il y a des choses tristes, et en même temps, il y a de l'espoir. Je pense qu'on
met le doigt vraiment. Il y a l'outil d'expression qui fait passer, enfin pas qui fait passer les choses, mais qui permet aussi d'extérioriser ce qui nous tourmente ou ce qui nous anime en fait.
Complètement, il y a ça. Et puis il y a même chez certains ados qu'on voit là, il y a des talents aussi. Il y en a un particulièrement qui montre des facilités à jouer des percussions. Ça va suivre. Il y a de belles choses qui vont suivre pour lui, j'espère. On est en train d'en discuter. On prend pas ça à la légère non plus. Mais j'espère que je vais garder contact avec cet enfant-là parce qu'il y a moyen de développer. Il a un sens artistique et musical qui est très fort et il a un rapport aux percussions qui est tout à fait naturel. C'est des facilités vraiment que voilà. Et j'espère qu'on va suivre ça. Et pour les autres, ça va marquer forcément la période. Les éducateurs me disent en arrivant, on les force un petit peu pour les emmener. Et puis en fait, quand ils sont arrivés, ça y est, ils sont volontaires à fond. Il y a même des fois, ça nous dépasse. C'est-à-dire qu'il y a des initiatives que eux-mêmes prennent qui sont géniales.
Voilà. C'est un groupe de combien de jeunes?
Alors ça dépend. Ils seront 7 ou 8. On a encore un doute sur le nombre de participants au concert, mais bien sûr dans ce genre de centre, priorité aux soins médicaux, priorité à l'école, priorité à un stage en entreprise, en alternance ou autre. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. C'est la vie quotidienne hein, qui.
Ce qui fait qui que le groupe bouge un peu.
Bah, ce qui fait que je sais pas toujours qui vient. je découvre qui vient aux séances. Mais ça, on a trouvé, moi, du coup, je me suis adapté aussi et on a trouvé un rythme de travail qui fait que le concert sera... Moi, je sais déjà ce que ça va être. J'ai hâte qu'on vous le joue, en fait. Voilà, j'ai juste hâte de ça. Mais si on est quatre seulement le jour du concert, eh ben on est quatre. Voilà, ça marche. La chose marche quand même. Et psychologiquement, pour les enfants... C'est acquis déjà, ça y est, on sait. Quand je finis les séances, maintenant, je me dis toujours bon là, ça y est, j'en fais ce que je veux. On est tous dans la même direction, ça marche.
Et du coup, par rapport au concert, est-ce qu'il pose des questions? Est-ce que pour l'instant, il y a du trac ou pas? Là-dessus.
Oui, il y a du track, mais c'est déguisé pour l'instant. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est plutôt c'est quel jour? Alors voilà, j'ai tout le temps les questions. Mais c'est quel jour déjà le concert? Mais c'est quoi? Mais non, mais moi je suis pas là ce week-end-là. Alors voilà, souvent on me dit non, moi je suis pas là. Puis je laisse faire. Moi je dis rien, je ne réagis pas. Et souvent un quart d'heure après, on me dit bon alors d'accord, ces jours-là, est-ce que mes parents pourront venir m'écouter? Mais bien sûr. Donc ça y est, on a un pied dedans. Je sais très bien que du coup ces enfants-là, quand ils posent ce genre de questions, ils seront là, ils seront présents, ils sont volontaires. Bon voilà, il y a d'autres. C'est allé loin. Il y a une jeune fille qui est venue aux premières séances en disant, tu sais, moi la musique c'est pas mon truc. Non, je crois que ça va pas m'intéresser. Voilà. Et puis en fait, c'est elle qui a été la plus volontaire pendant toutes les séances. Donc le track pour l'instant on l'a pas encore. On va l'avoir. On va avoir la pression la veille. Et puis le jour même, c'est déjà bien suffisant. C'est-à-dire que si ça se manifeste avant, c'est-à-dire, je suis pas capable. Bah si, de toute façon, ça va marcher. Il y a un groupe. C'est un vrai travail d'équipe. Ça va fonctionner forcément.
Justement, il y a un enjeu, c'est de jouer collectif. En fait, quand on fait de la musique, la notion de collectif, c'est pas optionnel. C'est on va s'écouter et on va jouer ensemble.
Absolument.
Et ça, c'est un élément qui est essentiel, qui est même fondamental, au-delà même de savoir jouer la bonne note au bon moment. Mais c'est jouer
ça.
Ensemble.
C'est jouer ensemble, c'est s'écouter. Et c'est la même chose que si on était à table pour une réunion. Voilà, chacun donne son avis. Et ben, on écoute chaque avis. On débat après, pourquoi pas. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer dans une conversation. En musique, c'est exactement la même chose. On est, s'il n'y a pas d'écoute, s'il n'y a pas de silence au départ, il n'y a pas de musique après. Alors ça, déjà, voilà, ça, c'est la base. Je le dis partout, tout le temps. Et là, c'est encore plus vrai. Et donc, il y a un comportement à avoir pour obtenir ce silence. Du coup, l'écoute se met en place. Et puis, on a ce travail de respect, je leur demande d'improviser. Donc, quand on improvise sur un instrument, on joue ce qu'on a dans la tête, on joue l'instant T aussi, l'état d'esprit dans lequel on est au moment où on joue. Et bah, ça, aux autres, de l'entendre, de le respecter, de dire OK, d'interagir même aussi. C'est-à-dire que l'improvisation suivante, elle peut dépendre de ce qu'il y a autour. D'accompagner ça aussi. Ça, c'est un travail de groupe aussi. Moi, je suis dans ce groupe, en fait. Je suis pas le... Alors, bien sûr que je suis le référent parce que, voilà, au départ, la tenue des baguettes, bah oui, bien sûr, je suis obligé de leur apprendre ça. Mais maintenant, on est arrivé à un point où c'est même eux qui donnent les idées et puis on interagit. Moi, j'apporte aussi les miennes. Je dis, tiens, sur ton idée, on peut mettre ça. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que vous en pensez tous? Et puis, on avance comme ça. Et ça va vite. Des fois, ça va vite.
Ce que j'ai pu venir à un atelier, et ce que j'ai trouvé incroyable, c'est de voir toutes les baguettes bouger en même temps qu'en suivant le morceau. Et je me dis, et le pouvoir de, enfin, la concentration qu'ont les adolescents lors de la musique, c'est incroyable.
Oui. Souvent, c'est le témoignage que j'en ai, c'est aussi les personnes qui encadrent me disent « Mais oh, c'est incroyable la concentration, on te regarde, tout le monde te regarde. » Ben oui, parce que je donne des signes. On peut pas se parler à voix haute pendant de la musique, ça ne se fait pas.
On fait pareil.
Ben oui, c'est vrai. Et c'est forcément... on a besoin de se faire des signes, de bouger les bras et tout ça. Et la coordination, à un moment, c'est obligatoire pour pouvoir jouer. C'est de la coordination en groupe aussi, donc avec tout le monde. Mais oui, les baguettes, elles bougent en même temps, etc. Il y a un petit côté spectacle qui est là.
Voilà. On rappelle quand a lieu ce ciné-concert, parce que j'imagine que le grand public peut y accéder à ce ciné-concert.
Alors le grand public peut y accéder, ça va avoir lieu le 12 octobre, samedi 12 octobre, à la Grange, l'espace culturel Lagrange à Alizay, et c'est à 18h, c'est sur réservation parce que Lagrange n'est pas un endroit très très grand, on a une soixantaine de places en tout, on a des gens qui vont, bien sûr, qui sont invités, parents, encadrants, voilà, il y a pas mal de monde, et donc vaut mieux réserver sa place en ligne. C'est gratuit, bien sûr. Et puis, c'est une aventure. On va jouer 30, entre 30 et 40 minutes, je pense. Grand maximum. Mais c'est déjà bien, hein, pour, vraiment
c'est
30, 40.
Énorme, c'est énorme. Énorme.
Oui, c'est énorme. Bah oui. Et voilà. Et on va avoir de très belles images que j'ai découvert il y a pas longtemps sur, sur ce qu'on a fait, il y aura des images des répétitions. C'est-à-dire qu'on met en abîme vraiment le concert. C'est pendant qu'on joue, on va nous voir travailler à l'image. Et puis, ça va être entremêlé de visites de la filature, de très belles images de la filature aussi. Avec nous dedans aussi, puisqu'on y a fait des expériences sonores qu'on va relater musicalement. Voilà, un très beau programme.
Et ben c'est parfait. Le rendez-vous est pris.
Le 12 octobre à Alizay, oui.
Tout à fait. Merci beaucoup, Stéphane, d'avoir échangé avec
plaisir,
avec nous au micro.
Avec plaisir, merci à vous.
Est-ce qu'on se refait un dernier petit morceau, Marie? Parce qu'on a une sélection quasi inépuisable des médiathèques départementales.
Tout à fait, celui-là, vous pouvez le retrouver sur Muskimi.
Voilà, t'as vu, je voulais me rattraper.
Donc, c'est un morceau de The Libertines. Alors, c'est un groupe de garage rock britannique assez vieux qui a été formé en 97 avec d'illustres chanteurs comme Pete Doherty, Carl Barat et Mike Jones qui faisaient partie des Clash. Après une longue séparation de 8 ans, là, ils reviennent avec un quatrième album qui s'appelle All Quiet on the Eastern Esplanade, un peu plus engagé. Et le morceau, c'est Merry Old England.
To marry old England, 'cause packets and pebbles on the ground. Welcome to marry old England. Yeah, I know you've been around. Just had to get to marry old England. I've seen you on the swings on the merry-go-round. How are you finding marry old England? With the chocolate swans flying, they're great. Everything that you dreamed of, oh yeah, now they're rushing through Albania. They've got to get to marry old England. Syrians, Iraqis and Ukrainians, oh, are you finding marry old England? With the chocolate swans flying, they're grey in the sodium light. Staying alive, no, they don't catch you tonight. I know you came the long way round. Welcome to merry old England. I'll see you on the swings in the merry. Are you finding merry old England? Yeah, I know you came a long way around. You had to get to merry old England. I see you on the swings and on the merry-go-round. Are you finding merry old England? Though with the chocolate swans fly,
The Libertines, Marie nous en a déjà bien parlé. Et puis on se rend compte qu'en fait, on n'est pas du tout dans le timing. Comme de bons amateurs, nous voici totalement débordés. Allez, on a un agenda à caler tout de même. Non exhaustif, bien entendu, mais qui peut vous donner une idée. Qui c'est qui commence?
C'est moi, juste pour ce qu'on a parlé avant, le concert réalisé. Les places, ça sera sur invitation, sur le site de soloops.fr, S-O-L-O-O-P-S. Donc, ça sera là-bas pour avoir des invitations pour voir le spectacle.
Ah oui, on a été amateurs jusqu'au bout, là.
Oui, jusqu'au bout, mais c'est pas grave, c'est la rentrée.
Alors moi, j'ai deux dates, deux festivals, toujours sur le territoire de Bernay, qui décidément est bien actif ce mois-ci. Donc, il y a le festival, la 15e édition du Festival Génération Durable du 1er au 25 octobre. C'est itinérant, hein, c'est sur 26 villes. Il y a 100 projections de films, de documentaires, de théâtre sur les thèmes de l'environnement, de la culture et de l'humain. Donc, vous pouvez retrouver ça sur le site de la MGC de Bernay. Et il y a aussi le festival Samhain, alors je ne suis pas sûre que je le prononce correctement, qui est la fête d'Halloween fêtée à Bernay du 31 octobre au 3 novembre. C'est une édition qui marche très bien et donc c'est pareil, vous pouvez retrouver ça sur le site de la ville de Bernay.
Le 5-6 octobre, c'est les fêtes normandes à Évreux, c'est sur le thème de la libération et de la reconstruction et c'est surtout la place du général de Gaulle dans le centre-ville d'Évreux.
Il y a aussi l'association culturelle rugloise qui propose un festival itinérant du 19 au 24 octobre sur la ville de Rugles. C'est sous le chapiteau Place de la Liberté. Il y a du théâtre, il y a du cirque, des ateliers divers pour les enfants, pour les grands. C'est très varié.
Le week-end qui arrive, là, le 28-29 septembre, il y a le Festival des Arts à la Mare, c'est à Claville, donc c'est pas très loin d'Évreux, il y aura des concerts, spectacles et de l'art de rue.
Et n'oubliez pas, la ville de Conches qui fait la fête de la pomme pour tous les amateurs de culture, de terroir, de gastronomie normande. Voilà, c'est le 27 octobre à l'Arboretum de Conches et vous pourrez trouver les infos sur le site de la ville de Conches.
Eh ben nous y voici, nous arrivons à la fin de cette émission. On l'aura bousculé à la fin, mais on reste dedans, tout va bien. On se donne rendez-vous le mois prochain.
Oui, le 25 octobre.
Voilà, nous serons le quatrième vendredi du mois. C'est pas facile à se souvenir, mais c'est le quatrième vendredi de chaque mois. C'est rendez-vous avec nous.
À bientôt.
À bientôt.